Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais eu de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Une mort lente et douce pour moi, oui c'est ce qu'ils veulent mon frère.
Je veux pas rester ici.
Bon sang, laissez-moi en sortir.
J'suis soi-disant ici pour aller mieux.
Mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée.
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je sais que c'est possible.
Il y a comme un goût de ouf dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquettes, sortez les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'écoute de Radio Kaléidoscope sur 97FM et www.radio-kaléidoscope.net et c'est l'émission Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre tous les enfermements et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Alors aujourd'hui, au Murs ont des oreilles, on avait envie de vous parler de différentes choses et tout d'abord de revenir un peu sur du son contre la prison. Du son contre la prison, c'est un événement donc, dont on avait déjà parlé sur cette antenne. Qui s'est déroulé à Saint-Étienne les 4 et 5 mai dernier. Donc c'était un week-end de rencontres anticarcérales avec le vendredi soir, il y avait une discussion-échange sur les luttes contre la tôle à l'intérieur et à l'extérieur. Et le samedi, il y avait un concert de rap qui était retransmis en direct sur une quinzaine de radios de France, de Suisse et de Belgique pour pouvoir être écouté à l'intérieur des prisons. Et voilà, ce concert, il était censé être retransmis sur cette antenne, mais à cause du mauvais temps, il y a eu un problème technique et du coup, ça n'a pas pu être diffusé en FM. Mais donc ça va être rediffusé samedi prochain, le 19 mai à 21h, donc de 21h à minuit, sur cette antenne. Et du coup, il y a eu pas mal de choses qui ont été discutées pendant ce week-end, et pas mal de textes aussi qui ont été écrits et lus donc pendant ces deux jours-là. Et donc pendant l'émission, on va rediffuser plusieurs des textes qui sont passés à ce moment-là. Et aussi pendant l'émission, on va parler plus précisément d'un texte collectif de revendication de détenus qui est sorti de la tôle de Roanne le 25 avril dernier et qui a pas mal tourné en France et du coup on va le relayer. On va également lire un autre texte qui avait été écrit pour le week-end du son contre la prison Donc, qui a été écrit par une personne qui sortait de prison et une amie qui, donc, qui était à l'extérieur et qui revient sur les manières de résister contre la prison quand on est dedans et quand on est dehors. Et puis on va aussi donner d'autres infos sur des luttes contre les prisons en France et ailleurs pendant cette émission. Et alors du coup on voulait commencer tout de suite avec, par parler donc, de ce qui se passe à Rouen en ce moment. Y a un texte qui est sorti le 25 avril dernier donc des détenus de Rouen qui revient sur leurs conditions de détention et plus globalement sur, le fonctionnement de la prison et qui dénonce ça. Je suis perdu. Ah oui, c'est ça. Et du coup, pour dire que la prison de Rouen, c'est une tôle qui a été faite avec les nouveaux partenariats publics-privés là, qui sont mis en place depuis 2008. Et donc, c'est une manière de gérer, de faire gérer les prisons par des sociétés privées. Du coup, la prison de Rouen, elle a été construite par Eiffage, qui est donc une grosse entreprise en BTP, et elle est gérée par le GEPSA. Le GEPSA, c'est une entreprise privée qui est très fière de sa collaboration avec l'administration pénitentiaire, puisque, en plus de gérer la prison de Rouen, elle gère plein d'autres prisons, des tribunaux, des centres de recrutement de l'armée, enfin plein de choses très chouettes. Donc elle est un peu spécialiste de la gestion des trucs d'enfermement et de répression, c'est super. Et le GEPSA, ça fait partie... Donc en fait, le groupe qui gère la prison de Rouen, il y a GEPSA qui assure tout ce qui est logistique, ménage, machin. Et il y a la cantine qui est gérée donc, par une société Eurest, qui est une société du même groupe que GEPSA, qui s'appelle Cofélie. Et Cofélie, c'est une filiale de GDF Suez. Et GDF Suez, c'est le deuxième groupe mondial en termes d'énergie, le premier groupe en termes de services. Et GDF Suez, c'est issu de la fusion donc, de Gaz de France, donc, qui était une société étatisée, et de Suez, donc une boîte privée, et qui a été privatisée par le gouvernement Villepin pour pouvoir fonder donc, cette société, donc, qui est la première entreprise, qui a un chiffre d'affaires de 110 milliards de dollars ou d'euros, enfin bon, de beaucoup en tout cas, en 2011. Et donc cette société qui, entre autres choses, fait aussi du nucléaire, enfin plein de choses très chouettes, et ben par ses filiales, elle gère aussi les prisons. Voilà, donc ça c'était pour revenir sur un peu le contexte de la prison de Rouen. Et donc on va passer la lecture de cette lettre qui a été... Donc le texte qu'on va passer, en fait, c'est la lecture de la lettre pendant le concert du son contre la prison, où du coup il y a aussi des gens un peu qui réagissent en même temps.
À la direction et à la juge d'application des peines. En cette date, nous, détenus du centre de détention de Rouen, entrons en lutte afin d'exiger que nos droits soient respectés et entendus. Vous nous obligez à rester en cellule ou dans les coursives le plus longtemps possible, là où il n'y a aucune activité pour passer le temps. Vous nous escroquez avec les cantines et les frais de télé de plus de 8 euros par le biais de la société Eurest. Vous ne respectez pas nos droits en matière de permission et de réduction de peine. Dans l'immédiat, nous vous informons de nos revendications.
Sport. Nous exigeons l'accès libre aux gymnases et aux salles de sport. C'est l'activité la plus demandée par les détenus.
Activité. Dans chaque nous avons à disposition une salle d'activité, constituée de quelques tables, chaises, aucune activité proposée. Nous exigeons des jeux de société, échecs, dames, etc. Nous exigeons aussi qu'il y ait plus d'activités culturelles et sportives. Tournois de foot, basket, volley, pêche, etc. Nous exigeons une réunion socio-culturelle par mois avec des détenus et des intervenants afin d'élaborer des activités qui ne nous soient pas imposées par l'administration pénitentiaire ou le service socio-culturel.
Parloir, nous exigeons, comme le prévoit la loi européenne, que la mise à nu des détenus lors des fouilles des parloirs soit retirée. Le système de contrôle à l'entrée des parloirs est largement suffisant pour garantir votre sécurité. Par conséquent, cette fouille ne sert qu'à nous humilier et maintenir une pression psychologique et physique sur nous. Les rondes au parloir sont aussi vécues comme une humiliation par nos familles et nous réclamons l'arrêt des rondes. En cas de problème, nous avons un interphone. Ce moyen de contrôle est abusif et conduit à une humiliation de plus. Nous exigeons enfin les accès libres au parloir pour nos familles, sans demande de permis de visite. Et en cas de retard, des familles qui ont souvent fait des centaines de kilomètres soient acceptées à l'entrée des parloirs et que la durée ne soit pas réduite.
Bâtiment. Nous exigeons que cessent immédiatement les mesures de quartier semi-ouverts et fermés. Tous les étages doivent être ouverts matin et après-midi. Que l'on puisse circuler d'étage en étage et de bâtiment en journée. pendant les temps d'ouverture des cellules. Les sèches-linges et machines à laver ne doivent pas être enlevés plus d'une semaine en cas de problème. Nous vous rappelons que tous n'ont pas la possibilité de sortir leur linge, pas de famille, pas de parloir, pas d'argent. Nous exigeons la fermeture immédiate des quartiers d'isolement et disciplinaire et autres mesures spéciales. La fermeture du prétoire qui crée plus de conflits qu'il n'en règle.
Cantine, nous exigeons que la société EURES soit remplacée par une société qui proposerait des tarifs plus bas et pas deux ou trois fois le prix extérieur. Qu'il ne nous soit pas imposé un surplus de 30% sur les cantines exceptionnelles, que nous ayons les prix extérieurs et que les télévisions ne dépassent pas le prix de 8 euros. Nous exigeons aussi les frigos plus grands et que le prix soit vu à la baisse.
Vie en détention, abolition des travaux dégradants, des métiers non qualifiants et disparus à l'extérieur, ainsi que des rémunérations assimilées aux travaux forcés, droit aux arrêts maladie et droit aux congés payés, droit de grève, droit à la retraite dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur, obligation pour la paix d'assurer lors d'un transfert un emploi équivalent dans les mêmes conditions, dédommagement par l'État, frais d'hébergement ainsi que des journées non travaillées pour les familles qui se rendent au parloir à plus de 100 km de leur domicile, plus de formation qualifiante, téléphone gratuit pour les indigents, l'appel aux employeurs et autres services administratifs.
Remise de peine, nous exigeons que les détenus n'ayant aucun rapport et remplissant les conditions de suivi socio-judiciaire bénéficient de la totalité de leur remise de peine et remise de peine supplémentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous exigeons que les expertises psychiatriques soient abolies.
Nous, détenus de Rouen, exigeons d'être entendus et que nos droits soient respectés, et ce, dès aujourd'hui.
Voilà, donc ça, c'est la lecture de la lettre de revendication qui a été transmise, donc, d'une part, à la direction du centre pénitentiaire de Rouen et aussi à la juge d'application des peines, le 25 avril. Donc, on voulait revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis ce moment. La lettre, elle a été rendue publique. Elle est parue notamment dans le journal local qui paraît à Rouen, qui s'appelle Le Progrès. Donc c'est vraiment hyper rare en fait que des textes écrits à l'intérieur soient transmis, retransmis dans leur intégralité par la presse. Et il y a l'idée que ce texte il circule au maximum, d'une part à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur dans d'autres prisons. Donc il a été repris sur Internet par différents collectifs aussi. Il a été diffusé à des moments de parloir devant des tôles, etc. Et une semaine après, le week-end dernier, il y a eu un rassemblement en solidarité devant la tôle de Rouen. Et d'après les journaux, il y a eu pas mal de chambards dans la tôle. C'est-à-dire que, ce que les journaux présentent, donc c'est toujours la version des syndicats de Maton. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un peu décortiquer qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière leur version à eux. Eux, ils parlent d'agression envers les Matons. Ils parlent au moins de trois détenus qui s'en seraient pris au Maton. Donc évidemment, en fait, eux, ils disent toujours que ça vient des détenus et ils se présentent toujours un peu comme les pauvres qui ont juste dû se défendre. Mais ce que nous, on peut avoir en tête, c'est que d'une part, les choses, elles se passent pas forcément toujours comme eux, ils le disent. Et puis que d'autre part, quand il y a des altercations et des situations de violence entre les détenus et les matons, ce qui s'ensuit pour les prisonniers, c'est du mitard, du tabassage en général, et que ça, évidemment, la presse ne va jamais le relayer. On voulait parler aussi du fait qu'au mois de novembre dernier, il y a une pétition en fait, qui a été transmise à nouveau à la direction de Rouen. et qui portait notamment sur les fouilles qui ont lieu au moment des parloirs, donc à savoir que c'était principalement axé sur le fait que c'est une situation assez humiliante pour les personnes qui viennent visiter leurs proches de se faire vider leur sac devant tout le monde, les effets personnels, la lingerie et compagnie. Et que du coup, cette pétition qui portait là-dessus et qui avait été signée par pas mal de gens, elle a été transmise. Et que la direction a isolé une personne en disant que c'était cette personne-là qui était à l'initiative de la lettre, voire même qu'elle avait forcé d'autres personnes à la signer. Et la personne a été mise à l'isolement, donc avec pour motif incitation à l'émeute, enfin, notamment. Du coup, c'est pour dire aussi que des prises de parole dans le contexte de la prison, en fait, ça peut amener à une répression, même quand il s'agit juste d'une lettre, et que c'est des prises de risque qui font que c'est important de faire circuler ces infos-là à l'extérieur aussi, de pouvoir développer de la solidarité à l'extérieur aussi pour que les personnes ne soient pas complètement isolées et se retrouvent coupées des autres et puis que ça passe complètement à la trappe en fait. Voilà.
Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup, cette lettre, elle a donc... circuler le plus possible à l'extérieur et du coup elle a été distribuée devant des prisons, dans des villes, il y a eu des tracts et des affiches qui ont été faits par rapport à ça et il y a aussi plusieurs collectifs ou individus qui en solidarité avec cette lettre-là ont écrit à l'administration pénitentiaire, aux juges et tout ça pour dire qu'en fait nous on soutient cette démarche-là, qu'on sera attentif aux suites qui en est donnée et que c'est aussi un moyen d'augmenter le rapport de force par rapport à cette lettre sur la paix quoi. Et cette lettre elle est disponible d'ailleurs si vous avez envie de la retrouver sur internet, on la trouve assez largement et notamment sur Indie Media Grenoble, donc elle est disponible, c'est possible de la lire.
L'idée aussi de parler de ce qui s'est passé, ce qui est présenté comme des incidents dans la presse, c'est que ça montre qu'il y a une tension assez importante qui règne en prison. Et notamment dans ce moment particulier où il y a un texte qui sort et où c'est important d'être attentif à ce qui peut se passer par la suite et à être présent de la manière dont on peut en tout cas relayer ces infos. Voilà.
Donc dans ce texte, il y a plein de revendications concrètes sur lesquelles on va revenir en détail juste après. Et avant, il nous semblait juste important de voir aussi plus largement contre quel système de pression, contre quel grand pilier de la tôle, en fait, ces revendications, elles s'inscrivent. Et là, c'est pas pour faire une liste complète, mais c'est juste pour voir les trucs un peu différemment, pour décaler un peu le point de vue. Donc, par exemple, en fait, il y a plein de revendications qui vont pour s'opposer, en fait, à l'isolement des personnes. En vrac, on a tout ce qui est autour de la libre circulation dans les bâtiments, par exemple, autour des activités collectives. Donc ça, c'est pour le lien avec les autres détenus. Et y a aussi toutes les revendications autour de la suppression des parloirs, enfin contre la suppression des parloirs, contre les transferts et les éloignements de la famille et des proches. Donc voilà, tout ça, c'est des revendications qui vont s'opposer au système de l'isolement, qui est donc un des piliers de la tôle. Après, un autre des principes sur lesquels fonctionne la tôle, il y a toute l'humiliation qui est mise en place. C'est les fouilles systématiques qui sont dénoncées dans ce texte. Il y a les questions du comment ça se passe au parloir avec la présence constante des surveillants et l'humiliation des familles, comme on l'a entendu aussi. Et l'autre point qu'on pouvait soulever, c'était aussi de remettre en question le système punition-récompense. Donc là, par exemple, en fait, on voit qu'il y a une revendication très forte sur la fin du mitard, la fin des mesures spéciales. Demander ça, c'est demander la fin d'un système qui est à la base du fonctionnement de la tôle, et sans ce système-là, en fait, la tôle, elle fonctionne plus. Donc voilà, en fait, c'était juste pour montrer que ces revendications qui sont très concrètes, en fait, elles remettent aussi en cause le fonctionnement même de la tôle et du coup son existence.
Et du coup, ça, c'était pour présenter un peu ce qu'on trouve intéressant de manière générale plus dans ce texte. Et là, on va un peu reprendre point par point les différents thèmes qui sont évoqués dans ce texte-là pour développer un peu, pour apporter un peu plus de précision et puis pour dire aussi ce qu'on en pense. Et du coup, le premier point qui est abordé dans ce texte, c'est la question des activités. Et il faut savoir que donc, l'accès aux activités en prison, c'est souvent un moyen de pression de la paix aussi pour foutre la pression sur les détenus. Que par exemple, souvent, c'est proposé en même temps les activités, le sport ou les parloirs. Et du coup, ça fait que, en fait, on n'a pas tant le choix que ça, que soit on va à notre parloir, soit on va à l'activité, par exemple. Et du coup, c'est un truc sur lequel on ne peut pas trop agir. C'est aussi la paix qui décide en fait, des activités qui sont proposées et du cadre dans lequel elles se passent. Et que, en fait, c'est pas... Enfin, voilà, c'est elle qui décide si cette année-là ou ce semestre-là, il va y avoir du théâtre ou du cinéma, et si la pièce qui va être jouée, ça va être ça plutôt que ça. Et du coup, c'est encore un truc de... En fait, voilà, c'est la paix qui décide de qui est autorisé à être dit et à être créé dans la prison.
On peut peut-être préciser aussi que ça peut avoir l'air sympa comme ça, et puis ça fait bien sur les papiers quand on dit « Ah bah tiens, dans telle tôle, il y a telle activité », mais que ça concerne toujours un nombre extrêmement limité de personnes, en fait, que sur une tôle où il va y avoir 300 ou 400 ou 500 personnes, et ben l'activité en question, parfois, c'est 5 personnes ou 15 personnes qui en bénéficient, entre guillemets, donc ça... Ça rééquilibre un peu cette vitrine qu'ils utilisent pour dire que les gens auraient des choses à faire à l'intérieur.
Et qu'en plus, ces 5 ou ces 15 personnes qui vont participer aux activités, ben, encore une fois, ce n'est pas n'importe quelle personne. Et c'est des personnes que la paix a bien voulu les faire participer aux activités parce que c'est des personnes qui ne posent pas trop de problèmes ou qui, en tout cas, voilà, que la paix accepte de les faire faire ça. Mais que, encore une fois, quand on est considéré comme une personne à problème ou que j'en sais rien, que on peut être considéré comme agressif ou comme pas sociable ou j'en sais rien, et ben on n'a pas droit à toutes ces activités-là. Ou quand on a, par exemple, un régime de détention plus fort que d'autres. Et voilà. Aussi, on voulait dire que à Roanne, donc c'est une prison, une des nouvelles prisons là, hyper moderne et machin. Et sur les plans, il y a des salles d'activités collectives qui sont dans chaque bâtiment. Et donc qui sont censés être des salles d'activité pour les détenus, et qu'en fait ces salles d'activité, comme on voit dans la lettre, elles sont pas du tout utilisées en fait. Et que du coup c'est bien beau de faire des bâtiments hyper modernes et de penser à plein de choses, et notamment aux activités collectives des détenus, sauf qu'en fait, de fait, c'est pas mis du tout en place, et que les détenus ils ont pas accès à ces espaces-là.
Du coup on enchaîne un peu le deuxième point qu'on voulait reprendre, c'est tout ce qui est autour des parloirs. Et du coup, la première revendication autour de ça, c'est la fin des fouilles systématiques et des fouilles intégrales. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que sont les fouilles intégrales, c'est des fouilles à nu. Donc, les détenus se déshabillent entièrement, ils doivent secouer leurs cheveux, tous leurs habits sont fouillés complètement. Et on peut demander aussi aux détenus de s'accroupir et de tousser. Donc voilà, c'est une fouille particulièrement humiliante. Et en fait, dans les dernières années, il y a eu plusieurs plaintes de détenus qui ont été faites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a en fait donné raison aux détenus et condamné la France pour traitement dégradant, etc. Et ça a donné lieu à une nouvelle loi qui est sortie le 24 novembre 2009. Et depuis, qui a donné lieu à un décret, puis à une circulaire pour ses modalités d'application. Et en fait, cette loi, même si elle rappelle trois grands principes pour dire que les fouilles intégrales, donc à nu, doivent pas être systématiques. Donc les grands principes, c'est faut que ce soit fait vraiment quand c'est nécessaire, faut que ce soit proportionnel à qui on les fait, etc. Donc je vais lire le texte, ça sera plus simple de comprendre après. Alors, les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Donc voilà, mais ça en fait c'est que des belles paroles parce que en vrai ce qui se passe c'est que bah, le directeur a encore toute la liberté de prévoir et d'ordonner les fouilles quand bon lui semble, quoi, c'est laissé à son arbitraire et notamment la façon dont c'est formulé, là, de dire que quand il y a présomption d'une infraction, ça laisse aussi encore toute la place pour que les matons qui font du zèle décident quand ils veulent de mettre en place ces fouilles. Et du coup, dans le décret d'application, qui est paru que le mois dernier, il précise que la fouille à nu ne doit avoir lieu que si les autres moyens ne sont pas suffisants, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de matériel de détection, si la palpation n'est pas suffisante. Et en fait, voilà, dans la lettre, il y a une lettre qui est sortie de la maison d'arrêt de Fresnes en octobre dernier et qui explique bien que ces fouilles, elles continuent d'être systématiques. Donc je vais lire l'extrait. On pourrait supposer qu'après la mise en place de cette loi, les fouilles se dérouleraient par palpation ou en utilisant les moyens de détection électronique qui bien sûr existent à Fresnes, ou que les fouilles intégrales systématiques seraient annulées et qu'à partir de ce moment-là, chaque fouille intégrale serait justifiée par un des préceptes indiqués dans la loi. Mais non. En fait, malgré le fait que le 22 juin 2011, la directrice de la maison d'arrêt, Madame Valérie Decroix, a fait distribuer dans toutes les cellules une note d'information pour la population pénale, dans laquelle il nous informe de la mise en place de cette loi, ici, rien n'a changé. À ce jour, malgré la nouvelle loi en vigueur, les fouilles intégrales continuent à être systématiques pour tous les détenus, sans exception. Donc voilà pour ce qui était de la fouille.
Ouais, aussi pour dire que c'est un moyen de plus, un des moyens de pression de plus de la paix, c'est aussi un contrôle sur le corps en fait, de dire qu'on est enfermé, mais que c'est, on n'a même pas la propre maîtrise de notre propre corps en fait, et que c'est aussi elle qui gère ça. Et du coup, ça va aussi avec des trucs d'intimité et tout ça.
Et puis il y a aussi d'autres choses par rapport à ce dont il parle là, concernant les demandes de permis de visite. Alors déjà, dans le texte, ça parle surtout des familles, mais moi j'avais envie de dire que quand on est au dehors, les gens qui nous sont proches ne font pas forcément partie de notre famille, et que du coup, ça amène la question de manière plus large, en fait, sur la difficulté à garder du lien quand on est à l'intérieur avec les gens qui nous sont chers. Parce que, par exemple, si on n'est pas proche et que, enfin, si on n'est pas de la famille et qu'on fait une demande de permis de visite pour quelqu'un qui est incarcéré, très fréquemment, il y a une enquête qui est ordonnée, qui prend au minimum 2 mois, donc ça, c'est déjà long. Et le permis de visite, il n'est pas forcément accordé, en fait. Donc, c'est vraiment à la bonne volonté, entre guillemets, du juge et de l'administration pénitentiaire de pouvoir maintenir des liens avec notre entourage ou pas. Et puis en plus, la famille, elle est beaucoup mise en avant, mais les liens familiaux, ça peut aussi être des liens qui sont compliqués, en fait. Comme à l'extérieur, les relations qu'on a avec notre famille, elles ne sont pas toujours évidentes. Et bien là, c'est encore plus exacerbé par le fait que la personne, elle peut être en situation... de dépendance financière, par exemple. Donc, il faut envoyer des mandats, ça coûte cher. Enfin, c'est tout un tas. Enfin, l'incarcération en elle-même, elle vient rendre encore plus compliquées les relations avec les proches. Et puis, il y avait un autre truc que je voulais dire. Qu'au moment des parloirs, si les personnes arrivent un peu en retard, et ben c'est très souvent que le parloir il saute. C'est-à-dire que la personne, elle s'est tapée toute la route, elle arrive avec quelques minutes de retard, et alors que c'est une procédure qui est hyper longue, parce qu'en fait, on arrive, il faut attendre, on est appelé, on rentre à l'intérieur, on attend encore, etc., etc. Mais si les personnes ont quelques minutes de retard, ça saute, et puis ça veut dire aussi que pour la personne qui est à l'intérieur et puis qui attend, ça fait... un parloir fantôme où on ne sait pas ce qui se passe, s'il y a eu un souci, si la personne nous a oubliés ou quoi que ce soit, sauf que c'est juste que c'est la paix qui bloque ce truc-là et que c'est dégueulasse. Et c'est aussi un moyen de maintenir la pression, en fait.
Ouais, et aussi dans la lettre, là, il y a aussi la question de ce que ça coûte, en fait, pour les familles d'aller à un parloir. Déjà, de ce que ça coûte psychologiquement, émotionnellement et tout ça, mais aussi de ce que ça coûte financièrement, qu'en fait, quand nos proches, ils sont dans une prison qui est assez éloignée, et ben, en fait, ça veut dire aussi qu'il faut s'organiser pour pouvoir payer le déplacement, pour pouvoir éventuellement être hébergé à proximité si c'est vraiment trop loin et qu'on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Enfin, en fait, c'est aussi toute une organisation technique d'aller voir un proche en prison qui est hyper complexe, et que c'est aussi ça qui est un peu remis en cause dans le sexe, en disant, mais en fait, c'est l'État qui décide à des moments de nous éloigner de nos proches et de nos familles. Du coup, c'est aussi... Enfin, là, ce qui est dit, c'est que c'est aussi l'État qui pourrait indemniser les personnes qui foutent dans la merde volontairement là-dedans. Et par rapport à ça, en fait, il y a eu... le mois dernier, il y a eu une mutinerie à Rennes. Et du coup, une des personnes qui est considérée comme leader de cette mutinerie, ben, en fait, c'était ça aussi qu'elle dénonçait, qu'en fait, elle est donc dans une prison à Rennes, que sa famille, elle est entre Paris et la Hollande, et que du coup, c'est hyper compliqué, que ça fait des années qu'elle demande le rapprochement familial et que ça ne se produit pas. Et du coup, bah, ça fait qu'à des moments, juste, on s'en prend à l'administration pénitentiaire directement dans les trucs de dire, en fait, laissez-nous au moins pouvoir relationner avec les personnes qui sont proches de nous, quoi.
Par rapport à ça, il y avait aussi l'envie de préciser un peu quelque chose par rapport aux UVF. Donc, c'est les unités de vie familiale. Parce qu'il faut savoir qu'un parloir, c'est une durée hyper limitée, en fait, pour se voir et essayer de se retrouver un peu. Donc, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie. C'est aussi possible de demander des parloirs prolongés, mais ce n'est pas accepté à chaque fois. Et les UVF, c'est... la possibilité de pouvoir retrouver ses proches dans quelque chose qui ressemblerait vaguement à une sorte d'appartement et qui laisserait des conditions d'intimité un peu plus importantes. Sauf qu'en fait, on ne peut pas avoir accès aux UVF dans toutes les prisons. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut demander seulement au bout d'un certain temps, en suivant certaines procédures, et grosso modo tous les deux mois. Donc c'est quand même quelque chose qui est hyper rare. Voilà, c'est aussi venir gueuler en fait contre la manière dont la prison elle abîme complètement les relations qu'on peut avoir avec les gens qui nous sont chers. On voulait revenir un peu sur ce qui est dit dans la lettre au sujet des quartiers ouverts, semi-ouverts ou fermés. Donc, en prison, il y a des régimes de détention qui sont différents. Par exemple, quand on est en maison d'arrêt, on est en régime fermé, c'est-à-dire qu'on reste en cellule quasiment tout le temps, hormis les moments de promenade. Quand on est en centre de détention, il peut y avoir plusieurs régimes de détention. Donc, les maisons d'arrêt, c'est pour les courtes peines, a priori, et les centres de détention, c'est pour des peines qui sont plus longues. Et quand on est en régime ouvert, ça veut dire que les cellules elles sont ouvertes une grande partie de la journée et que c'est possible de circuler, donc évidemment pas comme on veut, mais c'est possible de circuler au moins, sur un étage en tout cas. Donc ça ne veut pas non plus dire qu'on croise les gens qu'on a envie de croiser, parce que les personnes qui sont dans les autres bâtiments, en fait, on ne les voit pas. En plus, les promenades, elles ne se déroulent pas avec tout le monde, c'est des promenades qui sont séparées. Il y a aussi... le régime semi-ouvert, donc ça veut dire que la cellule, elle est ouverte une partie de la journée et on est fermé dedans l'autre partie. Et le régime fermé, donc fermé, c'est qu'on reste dans la cellule. Et ça, c'est, ça fait partie des outils de l'administration pénitentiaire pour réprimer en fait les gens, de les maintenir d'un régime à un autre. Et aussi, ça peut arriver comme punition par rapport à quelque chose qu'on reproche à une personne à l'intérieur, de le passer d'un régime ouvert à un régime fermé. Et donc là, c'est dire, bon, en fait... que tout le monde soit en régime ouvert, même si ce qu'on voudrait, c'est que le régime il soit tellement ouvert que la prison, elle n'existe plus.
Ouais, du coup, ça, c'est aussi une critique de ce qu'on appelle souvent les doubles peines, en fait, qu'en fait, à l'intérieur de la prison, il y a aussi un truc de justice en interne, là. Donc, par exemple, dans la lettre, il parle du prétoire. Le prétoire, c'est comme une espèce de tribunal interne à la prison, ou quand il y a des détenus qui posent problème au maton, on les fait passer devant ce tribunal interne là, où souvent donc c'est une justice hyper expéditive, où les détenus généralement sont mal défendus ou pas défendus du tout, et où de toute façon, quand bien même ils sont défendus, c'est toujours la parole du maton qui prime par rapport à la parole des détenus. Et que ça, en fait, c'est géré vraiment en interne à la prison, qu'il n'y a personne d'extérieur à la prison qui peut intervenir. Des fois, il peut y avoir des avocats, mais de toute façon, c'est une cour de justice interne, quoi. Donc, c'est géré par l'AP. Donc, ils sont jugés partis. Et du coup, généralement, c'est pas bon pour les détenus. Souvent, en fait, le principe, c'est que ce prétoire, normalement, il peut condamner à différents types de peines. Donc, ils vont, le pire, c'est des jours de mitard, mais ça peut être aussi des jours de mitard de sursis ou de faire des tiges ou des choses comme ça. Quasi systématiquement, quand on passe au prétoire, après, on est envoyé au mitard. Donc, le mitard, c'est pareil, c'est une cellule où on est hyper isolé, où on peut rester en théorie pas plus de 30 jours, mais des fois jusqu'à 45 jours. On est enfermé en permanence là-dedans, on est coupé de tout contact avec l'extérieur et tout ça. Et aussi pour dire que dans les prisons, il y a des règlements intérieurs, donc ils sont censés poser un peu les règles de vie dans cette prison-là, et que c'est quand on enfreint ce règlement intérieur qu'on peut passer au prétoire. Et en fait, ce règlement intérieur, encore une fois, il est censé respecter des règles qui sont édictées au niveau national et qui sont valables dans toutes les prisons et tout. Et de fait, en fait, c'est juste au bon vouloir de la direction de la prison qui va déclarer que un truc qui est autorisé ailleurs, ici c'est pas autorisé, et que que plein de choses en fonction de l'envie et de l'arbitraire de la direction de la prison, ça va être interdit ou autorisé, et du coup ça va permettre de réprimer certains comportements à des moments ou pas, quoi.
Et puis en plus d'une part, le prétoire, des fois, il vient s'additionner à un jugement à l'extérieur. C'est-à-dire que pour des choses qui peuvent... par exemple, des fois, c'est pour des histoires d'insultes, en fait, que ça part en vrille sur une histoire de courrier qui n'est pas livré, ou d'une cantine qui n'arrive pas, ou d'un mot de travers, ou je ne sais pas quoi. Et la personne, elle passe au prétoire, elle peut se prendre du mitard. Et en plus, ça arrive aussi qu'elle... passe au tribunal à l'extérieur et qu'elles prennent des peines supplémentaires qui viennent s'ajouter à la peine qui est déjà purgée pour la même histoire, en fait.
Ouais, et aussi, il faut savoir que quand on prend des journées de mitard, ça fait qu'on ne peut plus avoir de remise de peine, puisque c'est considéré comme un truc qui n'autorise pas les remises de peine après.
Et qui est noté dans le cahier électronique de liaison, donc cette espèce de fichier qui suit... la personne tout au long de sa détention et qui l'enfonce. Et puis il y a aussi encore d'autres mesures, en fait, de sanctions. Par exemple, il y a la mesure de confinement qui fait que la personne, elle reste dans sa cellule, mais elle y est bloquée. Il y a tout un tas de... L'administration pénitentiaire a dans sa poche tout un tas d'outils pour réprimer encore plus à l'intérieur de la prison et remettre en question, en fait, les moyens qu'elle a pour mettre au pas tout le monde. C'est aussi remettre en question l'existence même de la prison.
Du coup, on va enchaîner avec une petite pause musicale et puis on revient après pour finir de parler de ce texte.
De son et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge, mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ceux que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes barbares en afro ou à barbe que tu flippes croisés le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que les vies germent dans nos épidermes, et que c'est le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme, tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme.
Qui sont-ils?
Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force. Brassard de police et drapeau sur le torse, tu fracasses tes faces en légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France, et que toi tu
tu penses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès, des sales manouches, des sales picots et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? Arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande. Tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade. Avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français mal à ton aide. Leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois dans les cours avec ces voyous qui te vendent flingues et poudre. Qu'ils viennent sur les listes électorales. Et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils?
Alors c'est toujours l'émission Les Murs en des oreilles et on est encore en train de parler de la lettre des détenus de Roanne qui est sortie le 25 avril dernier. Et là du coup on va aborder un peu plus particulièrement la question de la cantine. Donc les cantines c'est quand on achète des produits à l'intérieur de la tôle en plus de ce que nous propose la prison qui généralement est insuffisant et dégueulasse et tout ça. Et du coup on veut pouvoir s'acheter un peu... soit à manger ou soit des fringues ou du savon, enfin ou n'importe quoi. Et du coup, à la prison de Roanne, c'est géré par une boîte privée qui s'appelle Eurest, donc qui fait partie du même groupement dont on a parlé tout à l'heure et qui en fait se fait grave de thunes là-dessus, puisqu'il faut savoir que généralement, les prix des cantines, c'est 2 à 3 fois plus cher qu'à l'extérieur, que c'est sur catalogue et que du coup, si on veut quelque chose qui n'est pas dans le catalogue, puisqu'évidemment le catalogue est restreint, et bien donc c'est ce qu'on appelle... une cantine exceptionnelle, et que là, c'est encore 2 à 3 fois plus cher que les cantines sur catalogue, que du coup, ça coûte hyper cher de se procurer des produits quand on est à l'intérieur, surtout que généralement, quand on est à l'intérieur, on n'a pas non plus énormément de thunes, et que du coup, si on a de la chance, y a des personnes qui nous envoient des mandats, et qu'on peut donc arriver à cantiner avec ça, et que quand on est complètement isolé, c'est donc d'autant plus compliqué d'arriver à se procurer ces produits. Et aussi, donc dans la lettre, il y a un passage sur le prix de la télé, puisqu'il faut savoir que en tôle, dans quasiment toutes les cellules, il y a la télé, que en théorie on peut refuser, mais que c'est souvent compliqué, puisque généralement on est plusieurs dans les cellules et tout ça, et du coup, de fait, on se retrouve avec la télé dans la cellule, et que la télé dans les cellules, c'est payant. Et donc ça dépend des tôles, ça peut coûter 5 €, et ça peut coûter 40 €, ou ça peut voire plus. Et donc il y a eu une proposition d'harmonisation au niveau national pour que ce soit 8 € partout dans toutes les tôles de France, sauf que ce texte-là, il n'est pas valable pour les tôles privées dont Roanne fait partie.
Et 8 € par mois. Hein.
8 € par mois, oui, pardon. Donc il n'est pas valable dans les tôles privées et qu'il est mis en place progressivement dans différentes régions de France. Et du coup, pour le moment, ça reste toujours au bon vouloir de l'administration pénitentiaire qui en profite donc pour se faire encore une fois de l'argent sur les détenus.
Après, on voulait parler aussi du paragraphe où il y a plusieurs revendications, notamment par rapport au droit du travail. Et du coup, nous, on voulait rappeler quand même par rapport à ça que même si les conditions de travail à l'intérieur, elles sont pires qu'à l'extérieur, la tôle, en fait, c'est juste un miroir grossissant des rapports d'exploitation par le travail qui existent aussi à l'extérieur. Et du coup, on voulait rappeler que, comme à l'extérieur, à l'intérieur, il y a des luttes pour améliorer les conditions de travail, mais il y a aussi des luttes contre l'exploitation qui passent plus, du coup, par du sabotage des outils de production, etc. Par exemple, par rapport à ça, au mois de janvier, il y avait eu l'incendie d'atelier, enfin d'un bâtiment où il y avait des ateliers de travail qui étaient dans la région parisienne, dans une tôle de la région parisienne. Et fort heureusement, personne n'avait été retrouvé et mis en cause pour cette affaire-là. Voilà.
Ouais, juste pour dire aussi que sur ce truc de travail à l'intérieur de la prison, bah, qu'en fait, comme on l'a dit, la prison, c'est juste un reflet de ce qui se passe à l'extérieur de la société, et que du coup, en prison comme ailleurs, on est dans une société capitaliste où, pour se procurer plein de choses, on a besoin d'argent. Sauf qu'en plus, en prison, eh ben, on a quand même moins accès à d'autres trucs qui font que peut-être à l'extérieur, des fois, on arrive de se passer un peu d'argent ou quoi. Et que du coup, bah, voilà, c'est le salariat, c'est un système qu'on a envie de combattre à l'intérieur comme à l'extérieur, et qu'au minimum, bah, que les gens qui sont dans ce système-là, ils se fassent moins exploiter, voire qu'ils ne soient plus exploités du tout, ce serait chouette.
Après, on va enchaîner un peu sur la question de la réinsertion de manière générale, donc par rapport à plusieurs points. Mais tout d'abord, en précisant que la réinsertion, c'est le jeu qu'il faut jouer en fait quand on veut sortir de tôle, que ça passe principalement par la mise au travail, et que du coup, au-delà des gros principes dont on nous parle, en fait, c'est un parcours qu'il faut suivre, qu'il s'agisse d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. Dans le texte, il y a plusieurs points qui sont abordés. Il y a l'histoire des remises de peine qui sont pas accordées. Alors, tout d'abord, pour préciser, en fait, quand on a une peine de prison à faire, il y a des remises de peine qui sont accordées de manière systématique, et c'est un calcul en fonction du temps qu'on a à faire. On a tant de jours qui se décomptent par mois de manière systématique. Sauf que si on n'a pas un bon comportement, entre guillemets, et ben les remises de peine, elles sautent, d'une part. Et d'autre part, apparemment, maintenant, ce serait aux détenus de faire eux-mêmes la preuve de leur bonne volonté et de leur volonté de se réinsérer pour pouvoir accéder à ces remises de peine qui sont normalement des choses qui tombent pour tout le monde de manière systématique. Donc c'est de ça qu'il est question en fait dans le texte. Et puis on voulait revenir un peu sur la question des expertises psychiatriques. En fait, depuis 2007, donc la loi contre la récidive, l'expertise psychiatrique, elle est imposée comme une étape obligatoire dans les aménagements de peine ou les permis de sortie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut passer devant un expert qui va pondre un rapport, en fait, où il va donner son avis sur la dangerosité de la personne en question. Et c'est après ce rapport que la suite va pouvoir se mettre en place ou pas, en fonction de ce que l'expert va avoir décidé. Et alors, d'une part, il y a le fait que ça bloque beaucoup de demandes de sortie, parce que les experts, ils sont soi-disant... Alors ça, c'est le discours un peu général, c'est que les experts ne sont pas assez nombreux. Sauf qu'en fait, avant, ce n'était pas obligé de passer de manière systématique devant un expert. Donc c'est aussi le fait d'imposer ça comme une obligation et après de venir se plaindre que soi-disant, il n'y en aurait pas assez, comme soi-disant, il n'y aurait pas assez de SPIP et de ceci et de cela. Et que si on rajoutait du personnel, la situation, elle serait plus simple pour les détenus. En fait, on pense que ça, c'est prendre les problèmes à l'envers, en fait. Mais du coup, notamment à Rouen, mais aussi à Rennes, par exemple, ça a été soulevé comme un problème récurrent pour plein de gens, que les dossiers, ils avançaient pas parce que les gens, ils attendaient pendant des mois et des mois et des mois un rendez-vous, juste un rendez-vous avec un expert psy. Et que tant que ça s'était pas pris, en fait, c'était pas possible d'avancer dans la demande de conditionnel. Du coup, c'était pour revenir un peu aussi sur ce concept de dangerosité qui est mis en avant et qui est notamment complètement exploité de manière sensationnelle par les médias dans les histoires de faits divers bien dégueulasses etc. Parce que ce concept qui est hyper flou, il est mis en avant pour retarder toujours plus les moments où les gens ils peuvent sortir. Et que ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent, parce que dans la loi du mois de mars, il y a l'idée de généraliser le diagnostic à visée criminologique qui dirait que, en fait, les gens, quand ils arrivent en tôle, ils devraient passer devant une commission qui ferait un espèce de profil psy de chaque personne, donc une évaluation de la personnalité. Et qu'en fonction du rapport qu'ils ont pondu, d'une part, ils vont envoyer les personnes dans différents centres de détention, donc avec soit une sécurité allégée, entre guillemets, normale, adaptée ou renforcée. Donc, c'est des types d'établissements différents. Et qu'ils vont devoir suivre tout ce qui leur est imposé, en fait, pour pouvoir espérer sortir au moment où ça devrait être le cas. Mais c'est toujours des choses qui deviennent mises en balance, en fait, avec bien suivre ce qu'on est censé faire, ce que eux veulent voir les gens faire. Donc, obligation de soins, de trouver du travail, indemnisation des victimes, stages d'hiver, etc. On enchaîne.
Ouais, et du coup, sur cette thématique de la réinsertion, là, il y a un dossier dans le dernier numéro de L'Envolée, donc il y a un journal anticarcéral qui est basé principalement sur des témoignages de détenus. Alors là, on n'a pas le temps d'en lire des extraits, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer et donc lire ces textes-là.
Qui sont, avec notamment une critique assez intéressante de ce concept de réinsertion qui dit, en fait, ça veut dire quoi de se réinsérer? Déjà, des gens qui, notamment dans une lettre où ça dit, en fait, moi, j'ai jamais été inséré avant, et ça voudrait dire quoi de se réinsérer maintenant? En fait, c'est pas un choix qui est laissé, c'est une obligation si tu veux pas accroupir entre ces murs, quoi.
Et du coup, on va terminer sur ce texte-là. Et du coup, on voulait aussi porter des réflexions sur la notion de droit et sur les luttes par rapport à ça quand on est à l'intérieur et aussi quand on est à l'extérieur.
Bah, du coup, le droit, effectivement, c'est quelque chose qui est parfois utilisé pour... Déjà pour médiatiser ou faire un peu plus d'infos par rapport à certaines histoires. Alors que ce soit des revendications, par exemple, on voulait aussi faire un parallèle avec une pétition qui est sortie en Martinique là récemment, où les gens parlent vraiment des conditions d'incarcération dégueulasses dans lesquelles ils survivent désespérément là. Et puis du coup, de dire que il y a des textes qui sortent, que ce soit dans des tôles complètement pourries et dégueulasses, mais aussi dans des prisons modernes et donc que ce soit à Rouen ou l'année dernière à Corba. Et du coup, le fait d'être dans des bâtiments qui sont neufs, c'est pas ça qui fait que l'enfermement il devient plus supportable, d'une part. Le droit, il est aussi utilisé quand des prisonniers font des plaintes contre l'administration pénitentiaire, donc par rapport à des points un peu précis. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent. Aussi par rapport à des histoires complètement sordides et dégueulasses de tabassage ou de mort en prison. Où l'administration pénitentiaire est mise en cause. Alors, ce qui est compliqué, en fait, c'est que ces plaintes qui sont posées, elles aboutissent souvent à des non-lieux, parce que le droit, c'est quelque chose qui est une arme pour le pouvoir, en fait, et que quand les tribunaux ils rendent ce qu'on appelle la justice, en général, elle est toujours favorable au pouvoir. Et que ça endort en fait les histoires, parce que c'est des spécialistes qui s'en occupent, qu'il s'agisse d'avocats, de juges ou quoi que ce soit. Et puis ça permet d'oublier, en fait, on fait un petit scandale médiatique à un moment donné sur quelque chose, et puis on se dit que c'est la justice qui va s'en occuper, et puis on passe à autre chose. Et donc il y a l'envie de dire que, en fait, non, il n'y a pas que ça à faire, et que on a envie de faire du bruit autour de ces histoires-là, on a envie que ça circule, et pas que auprès de spécialistes, mais, euh, mais aussi dans d'autres tôles, parce que les choses qui ont été mises en avant dans cette lettre de revendication, elles ne sont pas spécifiques à Roanne, en fait. Elles concernent l'enfermement de manière générale et les autres tôles aussi.
Oui, du coup, pour dire que nous, on était solidaires de tous les gestes de lutte ou de résistance qu'il pouvait y avoir en prison, que ce soit collectif ou individuel, et que ce soit un texte de revendication ou des refus de rentrée de promenade ou des gestes individuels qui sont faits pour faire chier la paix et pour leur foutre la pression, pour leur dire qu'on n'accepte pas leur autorité et qu'on n'accepte pas de se soumettre. Et ben, en fait, tous ces gestes-là, c'est des gestes que nous on considère comme des gestes de lutte et qu'on a envie de diffuser, et qu'on ne se pose pas la question de savoir si... Enfin, que la thématique de la légalité ou du droit, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse de défendre. Et par rapport à ce truc de résistance contre la tôle quand on est dedans, quand on est dehors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, on va diffuser un texte qui est passé donc, pendant le week-end du son contre la prison et qui revient un peu là-dessus.
Résister des dents, ce n'est pas regarder l'hématome pour ne voir que l'uniforme et pas la personne.
Résister dehors, c'est favoriser les parloirs sauvages, à la radio et dans la rue.
Résister dedans, c'est refouser les fouilles, nombreuses et inutiles.
Résister dehors, c'est refuser le parloir s'il y a une fouille.
Résister dedans, c'est refuser les médicaments.
Résister dehors, ça arrive au parloir le plus chargé possible.
Résister dedans, c'est manger, boire et baiser au parloir.
Résister dehors, c'est manger, boire et baiser au parloir.
Résister dedans, c'est prendre soin de soi. Ne leur laisser ni le corps ni la tête.
Résister dehors, c'est organiser les déplacements pour les parloirs.
Résister dedans, c'est refuser la télé.
Résister dehors, c'est fournir intellectuellement les prisonniers.
Résister dedans, c'est lutter pour avoir un lieu collectif.
Résister dehors, c'est organiser des caisses de solidarité.
Résister dedans, c'est s'autoriser à s'amuser.
Résister dehors, c'est faire péter des feux d'artifice pour éclairer leur nuit.
Résister dedans, c'est rester humain, toucher et être touché.
Résister dehors, c'est prendre le temps de toucher l'autre en dehors des relations sexuelles.
Résister dedans, c'est développer la solidarité et la gestion collective.
Résister dehors, c'est trouver une voie pour faire sortir les infos en continu et les faire circuler.
Résister dedans, c'est ne rien lâcher, même les tout petits.
Résister dehors, c'est faire des parloirs avec les inconnus, surtout les femmes qui n'en ont pas.
Résister dedans, c'est augmenter la charge de travail des matons le plus possible.
Ouvre, je fume, ferme. Allez, ouvre, je pisse, ferme. Ouvre, je fume, allez, referme maintenant.
Résister dehors, c'est harceler l'administration pénitentiaire.
Résister dedans, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir.
Résister dehors, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir.
Résister dedans, ce n'est pas avoir peur d'aller dedans.
Résister dehors, c'est de ne pas avoir peur d'aller dedans.
Résister dedans, c'est refuser tous les interdits.
Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage. Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage.
Voilà, on avait envie de diffuser ce texte parce qu'il parle de plein de choses et puis que résister dedans et dehors, c'est aussi d'autres choses qui sont pas... Enfin, il y a mille manières. Voilà. On va bientôt devoir s'arrêter. On voulait parler de notamment une soirée qui va avoir lieu vendredi prochain, donc c'est le 18 mai à Grenoble. En fait, on avait parlé déjà il y a un moment de la sortie d'un DVD et d'une brochure qui revenait un peu sur les luttes contre les quartiers d'isolement et la prison en Belgique. Donc, et la résistance, la mise en place de ces modules d'isolement et la résistance qui existait à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, c'est une soirée pour regarder ensemble ce court-métrage et discuter un peu plus de comment on imagine la lutte contre la prison là où on est, quels moyens on a envie de se donner. Du coup, on vous invite fortement à venir pour qu'on discute de ça ensemble. C'est à 20h30 au local autogéré. Donc c'est au 7 rue Pierre-Dupont, c'est dans le quartier de l'Aigle, donc vendredi prochain. On voulait rappeler aussi que au local autogéré, il y a donc le troisième mercredi du mois une écoute collective de l'émission de radio Les Murs ont des oreilles à partir de 18h30.
Et que c'est suivi par un atelier d'écriture à des détenus à partir de 20h. Et cet atelier-là, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, toujours au local autogéré.
Si vous avez envie de nous contacter pour nous faire passer des infos, pour passer un coup de gueule ou autre, n'hésitez pas, ça serait avec grand plaisir. Parce qu'on a aussi bien l'envie de relayer ce qui se passe ici à Grenoble, de faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc vous pouvez nous écrire par mail à lesmurs, donc L-E-S-M-U-R-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Vous pouvez aussi nous contacter par courrier, donc l'adresse postale.
Alors l'adresse postale, c'est Les Murs en des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018, je répète, Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Et juste avant de se quitter, on voulait aussi dire qu'il y a un nouveau numéro de Évasion. Donc Évasion, c'est un journal qui relate un peu les luttes contre la prison qui se passent à Grenoble et autour de Grenoble et tout ça. Et donc il y a un numéro qui vient de sortir.
Et qui est disponible notamment au local autogéré où il y a une table de presse avec des brochures, des journaux sur la prison et contre la prison.
Voilà. Et du coup, on va se quitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera le 20 juin, toujours à 19h sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Salut.
Salut. Salut.